Vous êtes sur les ondes de CFLX à l'émission La Rage du Peuple. Nous en sommes rendus à la partie entrevue avec Marco Silvestro. Est-ce que tu nous entends, Marco?
Oui, salut.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, merci d'avoir accepté l'entrevue. Toi, tu es impliqué dans le CSA. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, sans trop aller en profondeur, parce qu'on va y revenir plus tard, en quoi ça consiste le CSA?
C'est le Centre social autogéré de Pointe-Saint-Charles. En quoi ça consiste? C'est un collectif de personnes et de projets qui se sont mis ensemble pour créer un centre social dans une perspective radicale, donc de s'approprier des bâtiments et de créer un lieu de culture et un lieu de rassemblement politique radical à Montréal, dans le sud-ouest, l'arrondissement sud-ouest de Montréal.
OK. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait de particulier qui distinguerait ce projet-là des squats qu'on a déjà eus à Montréal avant? En plus d'être un centre social, vous voulez occuper un terrain, je suppose?
Oui. Ben, tu sais, au Québec et puis même au Canada en général, il y a quand même un certain historique du mouvement des squats. Ce qui est particulier, entre autres, c'est qu'il n'y a pas le même environnement, je vais dire, légal et institutionnel qu'en Europe, où le mouvement des squats existe depuis les années, en fait, depuis très longtemps, mais disons que le mouvement radical, surtout, émerge dans les années 60-70. Donc, il n'y a pas ça en Amérique du Nord, il n'y a pas ça au Canada. Et en fait, les expériences de squat qu'il y a eu au Québec, eh bien, ce sont des expériences qui ont été avant tout revendicatives. C'est-à-dire qu'on ouvre un squat pour revendiquer des logements, la plupart du temps, des logements sociaux pour les mal logés, des endroits en fait où les gens peuvent se rassembler aussi. Il y a eu des oppositions qui sont presque des squats, on pourrait dire des oppositions à la démolition de logements, par exemple. Donc c'est dans cette perspective-là que ça s'inscrit. Il y a rarement eu des expériences qui ont duré et qui ont pu mettre en œuvre des projets sociaux, parce que la plupart des squats ont aussi ça comme revendication de créer des espaces sociaux et culturels pour les gens. Donc, l'exemple qu'il y a eu du squat de la Chevrotière à Québec en 2002, je crois, oui, 2002, qui a duré quelques mois, c'est parti sur une revendication sur le logement. Considérant qu'ils ont pu rester dans le bâtiment un certain temps, ils ont commencé à mettre sur pied des projets culturels, bon, et puis ils se sont fait évincer. C'est un peu aussi ce qui est arrivé en 2001 à Montréal avec le squat qui s'est appelé le squat Overdale, qui était avant tout revendicatif, qui s'est transformé, parce qu'il a déménagé, qui s'est transformé en squat qu'on a appelé le squat Préfontaine, où là, il y a eu une tentative de mettre sur pied une structure, des projets culturels, de logement, puis bon, tout ça. Donc, nous, on s'inscrit dans cette tradition-là, c'est sûr, et puis on a peut-être pris une perspective inverse stratégiquement, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire exister le centre social, donc le projet, avant d'aller chercher un bâtiment, pour essayer de voir si on peut contourner les difficultés qu'on rencontre au Québec quand on veut ouvrir un squat politique et un squat public.
Dans le fond, vous assurez d'avoir tout ce que vous avez besoin quand que vous allez être rendu à vouloir mettre un squat qui va avoir une visée sociale et politique, dans le fond.
Ben, disons qu'on a mis beaucoup l'accent sur un processus d'organisation et aussi ce qu'on pourrait appeler un processus de légitimation du projet, parce que un enjeu qui se présente dans la plupart des squats, là je parle en Europe aussi, là je ne veux pas parler pour toute la planète, mais je vais parler de ce que je connais un peu de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Un des enjeux, c'est d'être accepté dans le milieu, si on pourrait dire, autour du squat. Hein, parce que ouvrir un bâtiment, d'une certaine façon, c'est assez facile. Avoir l'appui des gens autour de toi, t'inscrire dans une tradition de quartier ou dans un milieu de vie, ça, c'est un enjeu qui est beaucoup plus important et qui est crucial. C'est-à-dire que si tu as un appui local, communautaire autour de toi, c'est le pari qu'on fait, en fait. On estime qu'on va avoir plus de facilité à demeurer où est-ce qu'on va être et que les autorités vont avoir plus de difficultés à nous évincer de là parce qu'il y aura une légitimité du squat.
Parce que vous n'allez pas vraiment déranger les voisins. Parce qu'on entend des fois que les squats, c'est des endroits dangereux, mais je pense qu'en réalité, les gens, quand ils connaissent c'est quoi les squats, ils apprécient ça?
Bien, c'est sûr que la culture squat fait, comment j'allais dire, fait peur à la personne, je vais dire, la personne moyenne qui n'est pas habituée à ça. Bon, c'est sûr que dans la culture squat et la culture radicale punk, un peu, bon, alternative, il y a parfois des traits, que ce soit l'habillement ou la façon d'être, qui sont parfois, disons, pas communs pour les gens. Moi, où est-ce qu'on veut ouvrir le squat, le quartier, l'arrondissement sud-ouest, le quartier Pointe-Saint-Charles, c'est un milieu ouvrier blanc, francophone, qui commence à se diversifier, qui n'est pas nécessairement habitué d'avoir une population, disons, radicale, punk ou quoi que ce soit, qui soit là présente. T'sais. Donc, il faut, c'est important, d'après nous, d'être ouvert et de bien s'inscrire dans le milieu pour être sûr de pas faire peur aux gens ou déranger les gens, comme tu dis.
Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est question de se familiariser, parce que ça va être aussi l'objectif d'intégrer, parce que d'intégrer la population dans le projet, puisque je crois que la finalité sociale, c'est l'autogestion. Je pense que c'est un projet anarchiste qui est très proche de Pointe Libertaire. Est-ce que je me trompe?
L'idée avec la Pointe Libertaire, c'est un collectif anarchiste dans Pointe-Saint-Charles qui a une perspective, je dirais, territoriale, là, sans vouloir parler de frontières, mais plutôt de milieu de vie, de quartier, historiquement. Il y a des barrières physiques autour de Pointe-Saint-Charles. Tu sais. Donc, il y a une perspective territoriale de développement d'autogestion. Donc, essayer d'arriver vers l'autogestion du quartier. Et dans cette perspective-là, ben, la Pointe Libertaire a fait lancer plusieurs projets, notamment l'idée d'un centre social. Aujourd'hui, c'est des choses différentes, au sens où le centre social vit de lui-même. Il y a des gens de la Pointe Libertaire qui sont dedans, mais c'est pas la même chose. Donc,
mais le centre social autogéré a quand même comme une des finalités de favoriser l'idée de réappropriation des structures de pouvoir par de la démocratie directe, de la gestion directe, comme la pensée anarchiste?
Tout à fait, tout à fait. C'est fondamental. Bon, le nom même le dit, le centre social autogéré. Donc, on pourrait dire aussi autonome. En anglais, on a traduit ça par Autonomous Social Center. C'est-à-dire autonome de l'État, autonome des religions, des partis politiques, autonome des organisations qui pourraient essayer de nous de se servir de nous pour leurs intérêts.
En jouant une tutelle pour vous.
As-tu dit?
Dans le fond, des organisations qui voudraient venir jouer une tutelle sur votre projet, dans le fond.
Voilà, c'est ça. Mais en même temps, le centre social, c'est un... Je sais, je peux pas dire un lieu, un espace, une structure, appelons ça comme on veut, qui est complètement géré par ses membres, ses utilisateurs, ses utilisatrices, à partir des principes de base qui sont, on s'est inspiré de l'Action mondiale des peuples, donc une espèce de refondation des principes anarchistes, disons, généraux, c'est-à-dire, bon, un rejet de l'autorité et de la discrimination, un rejet du racisme, du sexisme et de toutes les ismes qui cherchent à exclure des gens. Et en fait, bon, comme tu disais, un principe d'autogestion des milieux de vie et des luttes autonomes. Et puis, voilà, donc à partir de ces principes de base-là, on essaye de monter quelque chose qui puisse fonctionner. Hein. C'est un peu un des défis de l'anarchisme, de réaliser concrètement son monde rêvé, hein. C'est les structures qu'on aimerait voir en place, une société égalitaire qu'on aimerait voir en place. C'est ça qu'on essaie de faire un petit peu à petite échelle.
OK. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon rapide sur le centre social autogéré, je vous propose d'aller en une pause, puis après ça, on va continuer avec les projets plus concrets, comme les différents comités, puis vos prochaines activités. Ça marche?
D'accord.
OK, ben à tout de suite. On vient d'entendre la chanson « La Révolution » du groupe Salle Majesté. Voilà. Donc, on va continuer l'entrevue avec Marco Silvestro de Montréal, qui est impliqué dans le centre social autogéré. Marco, est-ce que tu peux nous expliquer Un peu plus concrètement, c'est quoi les activités que vous planifiez, et que vous êtes en train de construire présentement?
Oui, bien oui. Ben écoute, le centre social autogéré fonctionne sur un principe qu'on pourrait appeler où il n'y a pas de coordination générale. Hein, donc, c'est une espèce de confédération de projets autonomes, si on pourrait dire. Donc, il y a des gens qui s'organisent pour, dans des comités qu'on appelle des projets autonomes, qui s'organisent pour tenir des activités, pour faire exister le centre social en attendant qu'on prenne un bâtiment. Donc, ces activités-là sont réalisées dans toutes sortes de lieux dans Pointe-Saint-Charles. Là, on a des groupes communautaires qui nous prêtent des locaux, puis on fait des choses dehors, ou on fait des petites occupations de terrain, des choses comme ça. Puis les différents comités, ben écoute, il y en a plusieurs. On a un cinéma itinérant, donc on a tout ce qu'il faut pour projeter des films à l'intérieur ou à l'extérieur. On en a fait quelques-uns au printemps. On a aussi un projet qui s'appelle Vélo Libre, on l'appelle comme ça, qui consiste en fait, c'est un atelier de vélo itinérant qui se tient dans Pointe-Saint-Charles. Je pense qu'il y a eu au moins quatre ateliers depuis quelques mois. Puis ce projet-là va aussi lancer des vélos en libre circulation dans Pointe-Saint-Charles. Donc on a une flotte là, qui est à peu près d'une quinzaine de vélos pour l'instant. On va en avoir plusieurs. On va avoir des stationnements à vélo particuliers pour ça. Puis donc tout ça, c'est mis gratuitement à la disposition de la population.
Mais ça, cette initiative-là, ça se fait en même temps que la ville de Montréal elle-même prévoit faire ça, mais avec des vélos barrés. Est-ce que je me trompe?
Oui, la ville de Montréal a un système payant, en fait. Puis une de nos lignes aussi idéologiques, si tu veux, c'est de dire qu'il y a une société de surconsommation et une société industrielle absolument insoutenable là, sur le plan écologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La Ville de Montréal, leur projet de vélo, c'est tout à fait ça. Ils ont fait beaucoup de recherches. Ils ont fait plein. Ça a coûté des millions de dollars de développement, de recherche-développement, et ça va coûter des millions de dollars d'implantation. Et ça va être payant. Nous, on a recyclé des vélos, on les a réparés. Nos vélos sont lettres, mais ils sont extrêmement fonctionnels. Ils sont solides, ils vont être gratuits, puis tout ça va nous coûter absolument rien, ou presque, à part le temps investi, tu sais. Donc là, il y a une différence fondamentale dans notre projet, celui de la Ville de Montréal, puis on va jouer sur cette idée-là quand on va lancer l'idée publiquement.
Je dois dire que les vélos libres de la Ville de Montréal doivent être tout aussi, sinon plus laids que les vôtres. Ils sont vraiment étranges, en tout cas, point de vue personnel.
Ouais, c'est ça. Ben au moins, ils ont une belle petite couleur argentée fashion. Nous autres, ils sont beige et violet, donc...
Ouh, pas rouge et noir.
Okay. Mais toujours est-il qu'il y a aussi un projet qui est pas mal important, qui roule très fort, ça s'appelle c'est le Comité éducation populaire. Là, il y a deux volets, il y a éducation populaire, puis il y a école libre. Donc, il y a une idée d'école libre, donc sous des un peu les idées d'école à la maison, mais école libre urbaine, si tu veux, qui est en train de se mettre sur pied. Puis il y a aussi une série d'ateliers qui roulent, d'éducation populaire qui roule depuis, ça a roulé tout l'été, on a déjà fait 4 ateliers, puis là, il y en a une quinzaine d'autres qui sont programmés jusqu'au mois de mai suivant, donc avec des sujets assez nombreux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un comité bar spectacle qui ont déjà organisé 2 parties, il y en a un autre qui s'en vient au mois d'octobre. On essaie d'avoir des groupes locaux, des artistes en émergence, des gens qui font... de l'art de façon alternative sans être reconnu dans le système.
J'en reviens aux écoles. Est-ce que c'est de l'éducation comme on pourrait s'attendre de la pensée philosophique anarchiste, ou est-ce que c'est plus largement est-ce que c'est plus large encore?
Ben écoute, je peux pas t'en parler en détail parce que c'est pas moi qui fait ces projets-là, mais ce que je peux dire, parce que je connais quand même un peu ce qui se passe, c'est qu'effectivement,